Vous écoutez Radio France Internationale, il est 20h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Anne Corpé à mes côtés dans 10 minutes, le décryptage consacré au Royaume-Uni avant les élections législatives du 4 juillet. Mais d'abord, votre journal, Anne, bonsoir.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Au Kenya, le président retire le projet de budget. Le texte a suscité des manifestations de colère brutalement réprimées. Au moins 22 morts hier. Vous entendrez un extrait de l'allocution de William Ruto dans un instant. Le mandat d'arrêt français contre Bachar al-Assad validé par la Cour d'appel de Paris. Le dirigeant syrien est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour son rôle dans les attaques chimiques meurtrières d'août 2013. Le détail à suivre avec Laura Martel. La bande de Gaza, toujours bombardée par l'aviation israélienne, cette guerre menée depuis les attaques terroristes du Hamas en octobre dernier, a entraîné un appel au boycott de l'État hébreu et cela commence à peser sur l'économie du pays, nous expliquera Nicolas Feldman. Enfin, en France, J-4 avant le premier tour des législatives, le Rassemblement national, toujours en tête des intentions de vote, la poussée de l'extrême droite inquiète les Français d'origine immigrée. Nous écouterons le président de l'association SOS Racisme. Au Kenya, le président retire la loi de finances contestée par la rue. Elle prévoyait de nouvelles taxes sur les biens de première nécessité. Au moins 22 personnes sont mortes hier. Après le vote du texte par les parlementaires, les manifestants avaient pris d'assaut le complexe qui abrite l'Assemblée nationale et le Sénat. Selon plusieurs ONG, la police a tiré à balles réelles sur la foule. La loi devait encore être signée par le chef de l'État qui a donc finalement renoncer après ces manifestations meurtrières. William Ruto s'est exprimé cet après-midi. On l'écoute au micro de Gaël Lalex.
I run a government, but I also lead people.
Je conduis un gouvernement, mais je gouverne aussi un peuple, et le peuple a parlé. Après le vote de la loi, le pays a été témoin de manifestations de mécontentement généralisées. En conséquence, écoutant avec attention le peuple kényan, qui a clairement dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec la loi de finances 2024, je ne signerai pas cette loi. Elle sera par conséquent retirée, et nous avons convenu avec les parlementaires qu'il s'agissait là de notre position collective. Maintenant, nous avons besoin, en tant que nation, de repartir de là et d'aller vers le futur. Je vais proposer un dialogue avec les jeunes de notre pays. Je recommande aussi un dialogue multisectoriel, bipartisan et général avec la société civile, les organisations religieuses, les syndicats, pour qu'en tant que nation, nous parlions du futur ensemble.
William Ruto, le président du Kenya. Et puis ce mercredi, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a réclamé que les responsabilités soient clairement établies après la mort hier de manifestants dans ce pays. La Cour d'appel de Paris a validé le mandat d'arrêt français contre Bachar al-Assad. Le président syrien est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour son rôle dans les attaques chimiques meurtrières d'août 2013. Les parties civiles saluent une décision historique. Laura Martel.
Historique, car c'est la première fois qu'une juridiction nationale reconnaît que l'immunité personnelle d'un chef d'État en exercice n'est pas absolue, soulignent les avocates des victimes et ONG françaises et syriennes parties civiles dans ce dossier. Rappelons de quoi il est question. Depuis 2021, des juges du pôle crime contre l'humanité de Paris enquêtent sur la chaîne de commandement syrienne qui a mené deux attaques chimiques contre des civils en 2013, dont celle du 21 août au gaz sarin dans la Rota orientale qui a tué plus de 1000 personnes. En novembre dernier, première décision historique, les juges délivrent un mandat d'arrêt contre quatre hauts dignitaires, dont Bachar al-Assad lui-même. Mais le parquet dépose ensuite une requête en annulation contre le mandat qui vise le président syrien. Il pointe en effet que jusqu'à présent, il est unanimement estimé que les exceptions à l'immunité personnelle des chefs d'État en exercice sont réservées aux juridictions internationales comme la Cour pénale internationale. Le parquet veut donc voir la question tranchée par une juridiction supérieure. C'est chose faite puisque la Cour d'appel a donc validé le mandat d'arrêt. On ne sait pas encore sur quel argument elle s'est basée, mais cette décision inédite ouvre la voie à la tenue d'un procès en France contre Bachar al-Assad dans ce dossier, qu'il soit arrêté grâce à ce mandat ou non, même si le parquet peut encore se pourvoir en cassation.
Lui vient d'être condamné, l'ex-président du Honduras écope aux États-Unis d'une peine de 45 ans de prison. Juan Orlando Hernández avait été reconnu en mars coupable d'association de malfaiteurs en vue de trafic de drogue et possession d'armes. Chef d'État de 2014 à 2022, il était accusé d'avoir aidé à expédier des centaines de tonnes de cocaïne aux États-Unis. Les bombardements israéliens se sont poursuivis ce mercredi sur la bande de Gaza, selon des témoins cités par l'agence France-Presse. Des combats font rage dans l'ouest de Rafah, au sud de l'enclave palestinienne. La guerre lancée après les attentats terroristes du 7 octobre dernier commence à avoir un impact sur l'économie israélienne. Le principal fonds de pension de Norvège a ainsi annoncé son désengagement de l'entreprise américaine Caterpillar, raison invoquée. Le groupe fournit des engins utilisés par l'armée israélienne dans sa guerre à Gaza, engin également employé au service de la colonisation en Cisjordanie occupée. Caterpillar estime la Norvège pourrait ainsi contribuer aux violations des droits de l'homme en Cisjordanie à Gaza. Cette annonce s'inscrit dans la vague d'appels au boycott financier d'Israël et cet appel au désinvestissement en Israël, Nicolas Feldman, commence donc à peser sur l'économie.
Oui, les derniers chiffres pour le premier trimestre sont d'ailleurs assez alarmants. Un exemple, les investissements directs étrangers en Israël ont été divisés par deux en un trimestre. Alors, cela s'explique évidemment par la guerre à Gaza. L'incertitude dissuade les investisseurs. Mais pour l'économiste Jacques Bendelak, cela montre aussi que l'appel au boycott affecte l'économie israélienne.
L'impact commence à se faire ressentir, ce n'est plus un appel, ce sont des réalités. Hein. C'est bien entendu, en premier secteur, les technologies qui ont vu la levée de fonds des investissements étrangers chuter de moitié depuis le début de la guerre. Et puis de façon générale, l'industrie, le commerce, les services. Donc il y a aujourd'hui un retrait des investissements étrangers en Israël.
Autre conséquence de ce boycott, plusieurs pays ont arrêté leurs exportations vers Israël. C'est le cas de la Turquie et cela fragilise le secteur, notamment de la construction déjà en difficulté.
Israël a acheté l'essentiel de ses matériaux de construction à la Turquie. Depuis quelques semaines, les matériaux n'arrivent plus. Donc le secteur de la construction est quasiment à l'arrêt du fait de cette réaction de la Turquie. Et sans parler des produits de consommation courante qui viennent aussi de la Turquie et qui se sont renchéris très rapidement. Donc l'élévation du coût de la vie que l'on connaît en Israël est aussi due à ce type de réaction comme celle de la Turquie.
Mais alors est-il possible de mettre fin à ce boycott d'Israël? La seule solution, estime l'économiste, serait de répondre aux demandes des soutiens des Palestiniens, retrait de la bande de Gaza, libération des otages, des options aujourd'hui inenvisageables pour le gouvernement israélien d'extrême droite.
Les Français qui résident à l'étranger ont commencé à voter pour le premier tour des élections législatives. La procédure de vote en ligne a ouvert hier pour les expatriés. Déjà 250 000 d'entre eux ont voté. Le portail dédié a été pris d'assaut. Il a dû augmenter ses capacités d'accueil. En France, le scrutin aura lieu dimanche, le premier tour, et c'est dans 4 jours. L'extrême droite fait toujours la course en tête des sondages. Les messages inquiets et les témoignages de la haine subie par les personnes d'origine étrangère se multiplient. Écoutez le président de SOS Racisme, Dominique Sopo.
Quand on vit dans un pays, la question de l'ambiance, la question d'être accepté, la question des violences que l'on subit relève aussi du symbolique et du verbal. Être ciblé parce que on est étranger ou parce qu'on est d'origine étrangère, c'est déjà une conséquence dans la vie des gens qui sont ciblés et dans leurs entourages. Hein, parce que souvent on parle de la question des étrangers versus les Français, mais combien de couples mixtes français-étrangers, combien de personnes dont les parents sont étrangers alors que eux sont français, ça a des conséquences qui sont évidemment extrêmement importantes dans la vie des gens. Et les conséquences encore plus concrètes seraient beaucoup plus visibles, si je puis dire, si cela se poursuivait et s'il y avait une victoire de l'extrême droite, dans la mesure où là, on pourrait s'attendre non seulement à des conséquences juridiques, bien évidemment, mais aussi dans la pratique, ne serait-ce qu'en termes de discrimination.
Dominique Sopo était l'invité d'Anne Cantner à la mi-journée. Une interview à réécouter dans son intégralité sur l'application Pure Radio RFI. Autre scrutin législatif anticipé, celui qui se tiendra le 4 juillet en Grande-Bretagne. Un dernier débat opposera ce soir le Premier ministre sortant à son adversaire travailliste. On en reparle juste après ce journal dans Décryptage avec Catherine Marchal, professeure d'histoire et de civilisation britannique. Du football, enfin, avec l'Euro 2024, on connaît l'adversaire des Bleus. Pour les huitièmes de finale, la France affrontera la Belgique lundi. C'est la conséquence du match nul, 0 à 0 entre l'Ukraine et la Belgique. Autre match nul, Slovaquie-Roumanie, un but partout, tous les deux sont qualifiés pour les huitièmes. Deux autres matchs à suivre ce soir, Géorgie-Portugal, République tchèque-Turquie.